petite série sur les promesses de Dieu. Nous avons parlé d'Abraham, de David, d'Ésaïe, hein, Dieu qui accomplit ses promesses dans le temps, hein, et déjà, même avant, hein, une promesse faite à Adam et Ève, nos premiers parents. Et donc aujourd'hui, une promesse faite à Amos. Ah, Amos, c'est un petit prophète, peut-être certains ne savent pas où il se trouve, c'est dans la dernière partie de l'Ancien Testament. Et donc c'est un petit texte, un tout petit texte qu'on va lire ce matin, mais c'est une grande prophétie parce qu'elle nous amène jusqu'à aujourd'hui. Donc on va dire 800 ans avant Jésus-Christ et 2000 ans de plus, hein, ça fait 2800 ans au moins. Alors, je voudrais d'abord montrer un petit texte, une lithographie de Dürer, Albrecht Dürer, le grand peintre du XVIe siècle. Et ce grand peintre a représenté la crèche sous la forme d'une ruine. Une ruine. Alors, il n'était pas là, il n'a pas pu voir dans quelles circonstances est né Jésus, mais c'est la ruine qui représente quelque chose en rapport avec le texte que nous allons lire tout à l'heure, hein, que nous allons méditer. C'est l'état dans lequel se trouvait la famille de David à l'époque où est né Jésus, et c'était un état de ruine. Et donc Jésus est né dans les ruines. Si on parle de toute l'histoire d'Israël, c'était un état de ruine. Et il va apporter un renouveau éclatant qui va aller beaucoup plus loin que tout ce que les prophètes ont pu imaginer. Alors, donc on voit, hein, peu importe, Jésus, Marie, Joseph, et c'est surtout la ruine, hein, la ruine de l'établissement qui est mise en valeur. Et ça va faire résonance avec le texte et qu'on va méditer maintenant. Alors, revenons à notre schéma. Donc tout d'abord, pour bien situer ce que dit Amos, il faut voir, faut voir un peu ce qu'il vivait à l'époque, l'arrière-plan, les contemporains d'Amos. Amos a reçu sa prophétie au jour d'Ozias, et qui était roi de Juda, donc dans le royaume du sud, et au jour de Jéroboam II, qui était roi d'Israël, royaume du Nord. Oui, ça ne m'apporte pas grand-chose, tout ça. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'époque, ces deux rois vivaient quelque chose de particulier. Deux royaumes antagonistes, mais ils vivaient un temps de croissance économique jamais vue, de prospérité, une grande prospérité économique, à la fois dans le Nord comme dans le Sud. Israël n'était plus opprimé par ses voisins. Les voisins étaient trop anéantis par leurs propres problèmes, la Syrie, etc. Et le commerce, donc, et l'économie étaient florissants, la richesse s'accroissait. C'était, on va dire, les 40 glorieuses. Mais Dieu ne pouvait pas approuver ce qui se passait. Il ne pouvait pas approuver les injustices qui résultaient de cet afflux de richesses. En effet, seuls les riches profitaient de tout cela, ils vivaient dans le luxe. Ils avaient oublié que tout cela, ils le devaient au Seigneur, hein, à ses soins constants, à son amour, hein, pour eux. Et ils faisaient donc preuve d'insouciance. Et ils s'étaient installés dans le confort. Ils refusaient d'aider leurs compatriotes qui étaient dans le besoin. Les pauvres étaient de plus en plus pauvres. Ils étaient exploités. Ils s'appauvrissaient encore plus. La classe moyenne, les riches étaient de plus en plus riches, voilà, et la classe moyenne, donc, n'existait plus, disparaissait peu à peu. Avec la richesse, on peut ajouter aussi, et Amos le dit, il le décrit dans ses chapitres, hein, avec la richesse, les vices se développaient. L'immoralité, l'alcoolisme, le sacrilège. Et donc les riches respectaient, il faut quand même le dire, respectaient encore la forme du culte, dans l'espoir d'apaiser l'Éternel, le Seigneur. Mais leur amour envers lui n'était plus authentique, n'était pas authentique. Et Amos avertit les Israélites, dans ses chapitres 1 à 9, les chapitres qui précèdent le texte qu'on va lire, Amos avertit les Israélites de la part de Dieu que leur méchanceté va amener à la destruction. Alors, il y a déjà une première leçon, hein, ne prenons pas, ne pensons pas qu'il suffise d'aller à l'église, d'avoir un comportement correct. Qu'est-ce que c'est un comportement correct ? Dieu veut que notre foi se manifeste dans nos relations avec les autres et dans toutes les circonstances de notre vie, pas seulement le dimanche matin pendant une heure et demie. Et donc ces paroles d'Amos, tout ce livre d'Amos nous stimule pour vivre. Il parle bien sûr avec force, avec comme un couperet, hein, mais ces paroles coupantes nous stimulent pour vivre avec fidélité conformément au désir du Seigneur. Alors comme toutes les autres prophéties, si vous avez déjà lu les prophéties de l'Ancien Testament, il y a un aspect comme ça tonnant, hein, un aspect difficile, et puis il y a toujours, ça se termine toujours par la victoire de Dieu, hein, sur le mal. Ça se termine toujours par une vision du rétablissement, hein, par la suite, dans la suite des temps de Juda et d'Israël, par la puissance de la grâce de Dieu. Et au milieu de ces perspectives douloureuses, une lueur d'espoir brille encore pour le reste de la maison de Jacob, pour ceux qui sont fidèles aux promesses d'Abraham. Et cette promesse est déjà au chapitre 9, verset 9. Ah, on s'approche, on va lire deux versets juste après tout à l'heure. Il est dit « Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob. » Ah, c'est déjà une clairière dans la forêt. Hein. C'est déjà un rayon de soleil parmi les nuages. Et puis maintenant, le texte qu'on va lire au verset 11 du chapitre 9, Amos affirme que Dieu fera plus que ne pas détruire. Il restera fidèle. Il sera fidèle et il annonce à ses promesses et il annonce un relèvement de la cabane de David. Oh ! Amos se souvient, en employant cette expression, de l'ancienne prophétie faite à David en 2 Samuel chapitre 7. Dieu avait promis que sa maison, c'est-à-dire sa dynastie, eh bien, subsisterait toujours. Il a promis qu'un descendant qui naîtrait de lui serait toujours, pour toujours, roi sur son trône. Alors, pour les contemporains d'Amos, cette prophétie semblait mise en échec. Mais voilà, je vais relire la prophétie. Chapitre 9 d'Amos, verset 11. « En ces jours-là, je relèverai la cabane chancelante. » Une traduction dit « la hutte croulante de David. J'en réparerai les brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai comme au jour d'autrefois. » Donc Amos 9, 11. Alors tout d'abord, il veut parler de la cabane de David. Pourquoi il emploie ce mot, hein ? La cabane chancelante de David. L'image d'une simple cabane contraste avec l'idée des palais magnifiques que David, en cèdre du Liban, que David et Salomon avaient bâti pour eux et leurs successeurs. Cette image dépeint l'état de faiblesse et de décadence auquel déjà était réduite la maison de Juda à l'époque d'Amos. Et on peut comprendre que ses contemporains pensaient que la prophétie avait été mise en échec. Le prophète Amos est témoin de la destruction progressive de la maison, de la dynastie de David. Le royaume, en effet, a été divisé en deux. Et le descendant de David ne règne que sur deux petites tribus autour de Jérusalem. Le royaume a été affligé de beaucoup de malheurs. Et par les mots chancelante, ses brèches, le mot ruine qu'il emploie, le prophète semble même indiquer qu'il voit la suite, qu'il la voit en esprit encore plus complètement abattue qu'elle ne l'est à cette époque. Ça va encore aller en empirant. Les conquêtes des grands empires vont bientôt menacer l'existence du petit royaume de Juda. La royauté ne sera bientôt plus qu'une coquille vide. Et pour finir, il n'y aura plus de coquille même. Il n'y aura même pas de forme extérieure de royaume, ni de gloire visible au temps où le Christ va apparaître. Il n'y aura même plus de coquille. Alors nous savons que chaque fois que les prophètes annoncent, voulaient redonner un peu d'espérance et annoncer un peu d'espérance à un peuple en détresse, ils parlaient du Messie. Et là, Amos parle, il annonce le Messie, en qui se concentraient toutes les promesses de Dieu, en qui se concentrait son amour, sa fidélité au travers des temps. Et il dit à peu près ceci. Bien que la maison, la dynastie de David, soit dépourvue de toute gloire, de toute excellence, et bien qu'elle soit réduite à un état de petite cabane, de hutte chancelante, le Seigneur va accomplir ce qu'il a promis, et il va vraiment l'accomplir, et il va l'accomplir à un point inimaginable à vos yeux. Et donc, nous pouvons dire, à la lumière du Nouveau Testament, que la prophétie s'est accomplie en Jésus. C'est une prophétie messianique qui s'est accomplie en Jésus, le Messie, le Christ. Au début de l'évangile de Matthieu, hein, je dis ça brièvement cette fois, dès les premiers mots, il est dit que Jésus, et on l'a dit dans le poème tout à l'heure, il est fils de David. Matthieu 1, verset 1. Dès le début de l'évangile de Luc, la figure de David est très présente. Marie est mariée à un homme nommé Joseph de la maison de David, il est dit. Oh. L'emploi du mot maison, donc, est une allusion à la prophétie, donc, faite à David, hein, qui annonçait au roi David que le Seigneur lui ferait une maison, une dynastie. L'ange annonce que Jésus, l'enfant qui va naître de Marie, est le roi attendu, le Messie, le fils de David. Il faut relever cependant que l'ange annonce aussi que cet enfant sera beaucoup plus qu'un homme de la descendance de David. Il sera appelé fils du Très-Haut, il sera appelé fils de Dieu. Le récit de la naissance de Jésus en Luc 2 reprend ce même thème de l'ascendance de David, l'ascendance davidique de David. Joseph doit se faire recenser à Bethléem, la ville de David, car il est de la maison de la descendance de David. Donc, on peut dire trois choses à ce propos. La première, c'est que donc Joseph et Marie forment la cabane déchue de David. Suite à la prophétie donc de 2 Samuel et d'Amos. Ça veut dire que la véritable famille royale d'Israël et de Juda n'était pas celle d'Hérode, c'est pas la famille d'Hérode qui constituait la famille royale Hérode dans ses palais à Jérusalem, non. La famille royale descendante de David, la véritable famille royale d'Israël et de Juda, c'est celle d'un charpentier de Nazareth et de sa femme enceinte qui va accoucher à Bethléem. C'est dans un humble écrin. Vous avez déjà vu, moi pas souvent, mais à la télévision, on a vu des joyaux magnifiques qui sont présentés parfois dans un écrin encore presque plus, un écrin digne du joyau. Mais ici, c'est dans un humble et misérable écrin qu'a été enfermé le don le plus précieux de l'univers, le don du Fils de Dieu à l'humanité. Alors, quel endroit surprenant, c'est vrai, que cette étable pour la naissance d'un roi. Les crèches qui foisonnent autour de nous, qui foisonnent encore, il faut rajouter, autour de nous, dans la période de Noël, sont toutes fausses. Toutes sont fausses. Hein. Toutes, hein, les grandes, les petites, les hautes, les basses, toutes sont fausses. Aucune d'elles ne restitue l'odeur. La pauvreté, la saleté et l'odeur de la première crèche. Aucune ne traduit le manque total d'hygiène pour un nouveau-né. Le nouveau roi est né dans la puanteur, dans la saleté d'une étable de Bethléem. Et qu'en est-il de la ville ? C'est pas mieux. Bethléem, c'est pas une ville, c'est assurément une ville célèbre. Une ville célèbre en tout cas aurait apporté un plus à l'image de Jésus, du Messie. Bethléem est célèbre pour ceux qui connaissent les prophéties, mais c'est tout. Hein. C'est une petite bourgade de rien du tout, dans la banlieue de Jérusalem à 12 kilomètres. Comme Ronny est à 15 kilomètres de Paris. Que dire de sa parenté, hein. Jésus a grandi au milieu des chuchotements avec un label d'enfant illégitime. Jésus aussi a assumé sa messianité sans le privilège d'un nom particulier. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un au début du culte. Jésus, on va dire, c'est un nom magnifique. Hein, ce n'est pas un nom commun. Hein. Mais ce n'est pas un nom vide de sens non plus pour nous. Ça veut dire le Seigneur, hein, l'Éternel est salué. C'est un beau nom. Mais si on réfléchit, beaucoup de gens s'appelaient Jésus. Hein. C'est le même nom que Josué. Hein. Et ceux qui traduisent le grec dans le Nouveau Testament, ils peuvent confondre Josué et Jésus, hein, c'est le même nom. C'est un nom très commun. Hein. Si on disait Jésus dans les rues de Nazareth, beaucoup de gens se retournaient. Hein. Et donc, ce n'est pas tout à fait un nom qui convient à la situation d'un roi non plus, s'appeler comme Josué. Et s'il est vrai qu'il y a eu une multitude d'anges pour annoncer la naissance de Jésus, ce fut devant un public minable. Il y a qui sont les premiers à être avertis de la bonne nouvelle ? Qui sont les premiers à voir cette révélation ? Des bergers. Les bergers n'étaient pas non plus les meilleurs messagers pour porter une bonne nouvelle aussi importante. Les bergers, au début de notre ère, ce ne sont pas des personnes romantiques hein, qui évoquent la nature, les petits oiseaux, la bonne vie, l'air pur, la campagne. Hein. Ce sont pas non plus des gens qui exercent le même métier que leurs grands ancêtres bibliques, comme Abraham, Isaac, Jacob et ses fils, Moïse, Saül, David, Amos, tous étaient bergers d'une certaine façon. Non. Au temps de Jésus, ceux qui exercent ce métier sont des personnes de seconde zone. Les bergers sont payés une misère pour un travail dur que personne ne veut faire. Ils travaillent dans la nuit, dans le froid, dans la peur des bêtes sauvages et des voleurs. Voilà, tout ça pour préparer des agneaux qui seront là pour les sacrifices de Pâques. Et en plus, ils sont considérés comme impurs, car ils ne peuvent pas eux-mêmes respecter les règles rituelles de pureté. Donc son public n'est pas, ce sont des paysans de basse classe, et en plus ce sont des étrangers, je ne reviens pas sur les mages, hein, c'est son public. Et puis la situation géopolitique n'est pas la meilleure. Il est question d'un pouvoir fort, structuré, hein, totalitaire, Auguste, l'empereur, Quirinus, le gouverneur, de la province romaine de Syrie, à laquelle appartient la Palestine, font peser tout leur pouvoir sur cette région en particulier. Cette administration développée et toute puissante entreprend de compter, de ficher tous ces administrés. Vous voyez, on n'a rien inventé. Hein, pour mieux contrôler les gens, pour percevoir plus d'impôts, pour asseoir son pouvoir, on va ficher tout le monde. Les populations sont déplacées par ces décisions politiques. Chacun doit aller au lieu de naissance de sa famille pour se faire inscrire, peu importe la distance, la fragilité de sa situation. Même une femme enceinte n'en est pas dispensée. Chacun est mis sur la route en fonction des décisions prises là-haut, décisions qui le dépassent. Et puis, on voit qu'ils sont comme dans un rouage, dans une grande machine. Dans ce grand déplacement de misère, une famille arrive dans une ville où il n'y a pas de place, personne pour les loger, pour les recevoir, pour les accueillir, hein, même dans la famille. La femme sur le point d'accoucher doit trouver un coin d'état pour la naissance, hein, et au milieu des animaux, donc quand aucun être humain ne lui fait de place, ne peut lui faire de place. Ça arrive si souvent, on le sait, pour les exilés de notre monde. Aujourd'hui. Donc on est vraiment, c'est vraiment un grand joyau qui va être mis dans un écrin tout à fait misérable, hein, indigne de lui. Ça c'est le premier point. Second point, c'est qu'on n'y pense pas, mais le mot cabane, c'est littéralement le même mot que tente, que tabernacle. Alors le tabernacle dans l'Ancien Testament, c'était le lieu où on offrait des sacrifices. Hein, et c'était ce que faisaient les prêtres, hein, les sacrificateurs. Et ils offraient des sacrifices pour annoncer la réconciliation, hein, le pardon des péchés sur la base d'un sacrifice. Hein. La fête des cabanes annonçait aussi, hein, la fête des tentes, hein, annonçait cela également d'une certaine façon, la délivrance que Dieu avait opérée en Égypte par son bras fort et sa main étendue. Et donc selon ce contexte, Amos parle d'une tente croulante de David, d'une cabane croulante de David. Ça signifierait la venue d'un médiateur royal, de quelqu'un qui serait à la fois sacrificateur et roi. Et c'est ça, ce sacrificateur royal que l'on pouvait désirer, qui mettrait fin à tous les problèmes et qui apporterait un vrai salut. il fallait, dans l'ancienne alliance, on était sacrificateur ou roi ou prophète. Et là, Jésus, le Messie, c'est celui qui est sacrificateur, roi et prophète. Et il a bien été à la fois roi et sacrificateur. Voilà la bonne nouvelle. Il est notre unique sacrificateur aujourd'hui. C'est lui qui nous a rachetés par son seul sacrifice, le seul sacrifice de son corps. Et il intercède pour nous auprès du Père. Il est aussi notre roi éternel. C'est lui qui règne sur nous par sa parole et par son esprit. Et déjà maintenant, et qui nous garde et nous conduit dans vraiment la profondeur de son salut. Alors, tout cela, c'est le second point. Ça va beaucoup plus loin que les quelques mots qu'on a lus. Et puis, un troisième merveilleux point, c'est Jésus est l'accomplissement. Cette prophétie parle de l'accomplissement des prophéties, donc concernant le Messie royal. Elle peut être interprétée dans la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, ça n'y paraît pas, mais tout ce texte et les versets suivants ont une valeur imagée, on va dire. Quand on dit à quelqu'un qui lit le Nouveau Testament, « Je relèverai, je rebâtirai », eh bien, on pense à ce que Jésus a dit. « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Le mot « résurrection », c'est le même mot que « relever ».« Je relèverai, je rebâtirai », ça parle de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est une prophétie qui parle de la résurrection de Jésus, de l'exaltation de Jésus à la droite du Père. Un jour, et les versets suivants nous parlent d'un renouvellement dans le peuple de Dieu. Le texte suivant, les versets suivants nous parlent que Dieu va ouvrir le cœur des païens, symbolisés par les Édomites, qui étaient les ennemis héréditaires. Édom, Adam, c'est le même mot. Il va ouvrir le cœur du reste de l'humanité pour qu'ils cherchent le Seigneur eux-mêmes. En d'autres mots, c'est l'annonce que par Jésus-Christ, le fils de David, des juifs et des non-juifs vont être inclus dans le nouveau peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle communauté, par la repentance et la foi en Jésus, le Messie. Et Jacques, au chapitre 15, reprend ce texte en disant « C'est accompli maintenant ». Jésus est mort, il est ressuscité. C'est pas étonnant que l'évangile soit annoncé aux païens. Et il se réjouit de l'évangélisation des païens faite par Paul et Barnabas. Et il dit, ils font partie du peuple de Dieu. Il faut pas qu'on leur fasse trop de problèmes. Il faut les accueillir le cœur ouvert. Donc à la venue du Christ, la séparation entre Israël et les nations disparaît. Des peuples de toutes les nations forment le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Un peuple renouvelé par son esprit. Un peuple dont le Messie est roi aujourd'hui. Et qu'il est notre roi. Un peuple qui est composé de gens de toute origine, de race. Et nous sommes tous dans le peuple de Dieu, les héritiers spirituels d'Abraham et de toutes les promesses qui ont été faites au peuple de Dieu concernant le Messie. Alors, concluons. Dieu a fait des promesses qu'il a tenues. Il a tenu toutes les promesses. Et il les a accomplies au-delà de ce que les gens pouvaient imaginer. Ça va beaucoup plus loin que ce que les gens pouvaient imaginer quand Abraham a fait cette première prophétie. Dieu a préservé de façon merveilleuse ses fidèles au milieu des confusions et des misères les plus effrayantes. Là, au temps d'Amos, on pensait arriver à un point de non-retour. C'était fini. On pensait que Dieu ne pouvait pas faire évoluer la situation dans le bon sens. Mais non, c'est faux. Tout était faux. Quand tout semblait noir et désespéré, Dieu a ravivé merveilleusement son peuple par sa parole. Et ensuite, il l'a maintenu. Et il l'a préparé pour la venue du Messie. Et un reste fidèle l'a accueilli. Et cette promesse est étendue à toute l'humanité. Il a béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et ce n'est pas fini. Un jour encore, le Seigneur qui règne déjà à la droite du Père règnera de façon manifeste dans notre monde et changera tout. Nous l'attendons, ce roi. Et comme les Israélites du temps d'Amos, nous pouvons reprendre espoir en regardant au Christ. Si nous regardons à quelque chose d'autre que le Christ, nous pourrions perdre espoir. Mais si nous regardons Christ comme ses prophéties nous y invitent, là, notre foi est renouvelée, notre espérance également, sans parler de notre amour. Car le Christ est enfin apparu. Sur sa tête repose aujourd'hui la vraie couronne. Il est le roi légitime. Il est ressuscité d'entre les morts, il règne, il est maintenant assis à la droite du Père. Et son trône ne va pas durer, va durer sans défaillance jusqu'à la fin de notre monde. Bien plus, le monde sera renouvelé et le royaume du Christ continuera sous une forme encore plus merveilleuse que tout ce que nous pouvons imaginer. Et il y aura le renouvellement, la résurrection, le renouvellement de toutes choses. Le Christ sera vraiment roi pour toujours. Alors nous pouvons nous encourager par ces paroles. Paul dit en 1 Thessaloniciens 4, verset 18, « Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. » Il vient de parler du retour de Jésus. Ça nous encourage parce que sa parole nous rappelle tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a fait et qu'il fera encore pour nous. Voilà une source d'encouragement. Ce que Dieu a fait, eh bien, c'est ce qu'il fera encore. Ça nous encourage aujourd'hui. Mais aussi, sa parole nous révèle qui il est au travers de toutes ces choses. Il est un Père plein d'amour, un Dieu plein de sagesse, qui ne fait pas de faute dans son plan. Il connaît son métier de Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire dans les hauts, les bas de la vie. Nous ne comprenons pas tout, comme Amos ne comprenait pas tout, comme cette communauté fidèle de croyants ne comprenait pas tout. Mais ils ont mis leur confiance dans cette parole de Dieu et dans le Dieu lui-même, dans Dieu lui-même, en Dieu lui-même. Et pour eux comme pour nous, savoir que Dieu connaît son métier de Dieu, c'est cela qui nous apporte une confiance renouvelée, une paix profonde et une espérance magnifique qui nous pousse aujourd'hui à donner le meilleur de nous-mêmes, à donner notre cœur de façon renouvelée au Seigneur. Amen.